BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
11h passé, 2 minutes, deuxième heure de BFM Patrimoine qui débute, comme chaque jour, par l'Actu Éco avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'Info Éco.
Et à la une, c'est la fin des négociations exclusives entre Casino et Teract. L'échéance prend fin ce soir à minuit. On devrait en savoir davantage sur les contours du projet de Xavier Niel, Mathieu Pigas et Moëz-Alexandre Zouari, les trois actionnaires de Teract qui semblent prêts à tout pour l'emporter, y compris, et ça c'est nouveau, à s'aligner financièrement sur l'offre de Daniel Kretinsky. En attendant les détails de l'offre, la situation du distributeur s'aggrave. Le groupe a reconnu avoir consommé 1 milliard d'euros de cash de plus qu'annoncé en 2022. Sur ce dossier Casino, retrouvez plus de détails sur notre site bfmbusiness.com. Société Générale cède 4 filiales en Afrique, au Congo, en Guinée équatoriale, en Mauritanie et au Tchad. Deux groupes reprennent la totalité des activités et l'intégralité des portefeuilles clients. La banque annonce par ailleurs l'ouverture d'une réflexion stratégique concernant sa filiale en Tunisie. Saint-Gobain vise une marge d'exploitation à deux chiffres au premier semestre. Le groupe confirme par ailleurs ses perspectives pour l'année avec une marge d'exploitation comprise entre 9 et 11%. Dans le secteur auto, le chinois BYD, grand rival de Tesla, débarque en France. Le constructeur va y lancer 5 modèles 100% électriques pour concurrencer directement Peugeot et Renault. Il vise une centaine de points de vente d'ici à 2025. L'équipementier Autoliv réduit ses coûts. Le numéro 1 mondial des airbags et ceintures de sécurité supprime 8000 postes dans le monde, soit environ 11% de ses effectifs. Ces suppressions d'emplois concernent particulièrement l'Europe, où le groupe a l'intention de fermer plusieurs sites. L'emploi confirme sa bonne forme. Il y a eu 86 800 créations nettes d'emplois dans le privé au premier trimestre, soit une progression de 0,4%. C'est deux fois plus que prévu et c'est le 9e trimestre consécutif de hausse. Et puis la Grande-Bretagne va accueillir le premier sommet mondial sur l'intelligence artificielle, annonce de Rishi Sunak depuis les États-Unis lors d'un déplacement. Il permettra d'évaluer les risques posés par l'IA et d'établir une stratégie mondiale pour les atténuer. Le sommet devrait se tenir à l'automne. Le Premier ministre britannique souhaite par ailleurs que le futur régulateur mondial du secteur soit basé à Londres. Cédric. Merci.
Avec le micro, ce sera plus simple. Merci beaucoup, Stéphanie Collo, que l'on retrouve chaque heure pour suivre cette Actu Éco. Nous, tout de suite, on se connecte au marché.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et c'est Frédéric Rosier qui nous accueille chez Mirabeau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Cédric.
Bon, on a l'air de vouloir grimper, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit la folie douce.
Non, parce qu'on a eu un petit mouvement quand même hier aux États-Unis, notamment sur les GAFA, hein, qui ont baissé entre 2 et 3%. Un mouvement qui a été accentué par une décision surprise de la Banque du Canada, hein, de remonter ses taux. Donc ça laisse un petit peu de doute sur la trajectoire que pourrait donner la Fed. Et bien sûr, lorsque vous avez une inquiétude sur une remontée des taux, les valeurs de croissance, en tout cas les valeurs technologiques, sont les premières à subir des prises de bénéfices. Alors on a une rotation sectorielle qui est très forte, hein, depuis maintenant 24 heures. On voit un peu plus de cyclicité sur le marché avec des valeurs qui avaient un petit peu souffert en relatif. Je vois le secteur automobile par exemple en train de reprendre. À l'inverse, les secteurs liés à la technologie qui avaient fortement rebondi, des Dassault Systèmes, des Capgemini entre autres, souffrir sur le marché. Donc c'est tout à fait naturel. Ça n'a pas forcément duré, mais voilà, il y a une vraie rotation et forte rotation sectorielle.
Et puis quelques valeurs qui méritent qu'on s'y attarde. D'abord Airbus.
Oui, Airbus, c'est très intéressant puisque on a le niveau des livraisons sur Airbus. Et là, c'est plutôt une bonne surprise, hein, puisque Airbus a livré 63 appareils. Je vous rappelle que l'objectif, hein, c'est 720 appareils. Donc, on a fait à peu près un tiers des objectifs annuels. Alors, tout va bien, hein, puisque la gamme A320 qui est la plus rentable, hein, c'est la génération du free cash flow, c'est un avion qui est le plus vendu au monde. Les ventes sont sur une sacrée cadence, hein, 55 appareils. Faiblesse sur la partie Bombardier A220, sur des problèmes de logistique, notamment avec Pratt & Whitney sur livraison de moteurs. Mais au-delà de ça, et d'un carnet de commandes qui est quasiment à 6000 appareils, on va arriver quand même à une phase extrêmement intéressante. On va voir le Bourget. Et nos confrères Dodo donnaient une statistique assez intéressante depuis 10 ans. Dans les 3 semaines qui suivent le Bourget, on sait qu'on attend pas mal de commandes, l'action progresse d'environ 6%. Donc c'est peut-être l'opportunité, en plus les titres ont baissé un petit peu là depuis 2 jours, de se repositionner dans l'attente de ces nouvelles commandes et surtout d'un carnet de commandes bien rempli et une trajectoire de livraison qui est totalement normalisée maintenant.
Un petit mot également de Soitec.
Oui, Soitec, en marge du Capital Market Day qui a lieu aujourd'hui, a donné des indications notamment sur sa trajectoire sur ses guidance, maintien des guidance, trajectoire aussi sur la marge d'EBITDA hein, sur 2023, là aussi confirmation de la marge d'EBITDA. On l'a vu dernièrement hein, concernant notamment les semi-conducteurs, beaucoup de projets en cours, donc il va falloir aussi pour Soitec peut-être annoncer de nouveaux contrats peut-être hein, pour donner de nouveau de l'allant sur ce titre-là qui avait souffert aussi un problème de gouvernance mais également d'un marché des smartphones qui était un peu plus d'endure. Mais en tout cas la trajectoire de rentabilité est bonne, la croissance à 20% est satisfaisante et là aussi elle devrait suivre les nombreux contrats qu'on a eu notamment avec STM, Global Foundry notamment, une trajectoire vraiment dynamique.
Bon ben voilà quelques idées à avoir sur ce marché. Merci beaucoup Frédéric Rosier.
Merci,
donc depuis Mirabeau sur ce marché parisien qui est en hausse de 0,15%, 7213 points. L'eurodoll est à 1,0733.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui accueille Véronique Richelorez. Bonjour Véronique.
Bonjour
pour
Cédric.
RF Research. Et Marc Riez. Bonjour Marc.
Bonjour Cédric.
Pour Vega IM. Alors on a eu récemment 2 événements et 2 déroulés qu'on pourrait qualifier de quasi similaires. Le plafond de la dette américaine et la note française. Avant, tout le monde en a parlé. Et puis juste après, tout le monde nous a dit qu'il n'y avait aucun enjeu.
C'est ça.
Quelle analyse vous faites de ce... 2 événements qui n'ont rien à voir, hein, 2 éléments totalement différents, opposés. Enfin, et pourtant, même comportement un peu moutonné de marché, quoi.
Oui, surtout très peu de réactions en réalité sur les marchés. Alors, sur le marché de la dette américaine, on a quand même vu les taux à 1 mois se tendre dès le début mai. Ils sont retombés un petit peu, mais voilà, le spread en France a réagi quand même à l'annonce de Fitch il y a quelques semaines. Les menaces d'un downgrade de S&P ont absolument rien fait. Alors, il y a sans doute plusieurs raisons. D'abord, il y a encore pas mal de liquidités sur ces marchés. Il y a pas mal de demandes pour les placements obligataires. Et puis, mais enfin, quand même, quand on se souvient ce qui s'est passé il y a quelques années à propos des dettes, est-ce que ça a impliqué en termes y compris de changements radicaux de politique économique, on se dit, tiens, quand même, il y a une inertie là, qui est étrange. Je pense que ces facteurs conjoncturels l'expliquent un peu. Hein, la demande, la hausse des rendements également, qui fait qu'il y a de la demande. Les banques centrales, hein, qui détiennent entre 20 à 40% de la dette publique au Japon, et qui amortissent tout ceci. Est-ce que néanmoins, on peut mettre le dossier de côté? C'est difficile quand on voit à quel point les dettes publiques sont sur une tendance ascendante, alors un petit peu gênées par l'inflation, enfin estompées par l'inflation, à quel point les États sont sollicités de toutes parts et à quel point il est difficile de dire il faut arrêter, parce qu'effectivement on parle souvent d'enjeux de souveraineté, en particulier en Europe. On voit l'Allemagne qui est sans doute effectivement en train de réaliser qu'elle a besoin de réinvestir massivement dans son économie et de soutenir ses entreprises, etc. On se dit, tout ça, ça veut dire quoi? Probablement beaucoup d'instabilité sur les perspectives de taux d'intérêt, probablement des épisodes récurrents de stress ponctuels liés à ce que feront ou pas les agences. Puis la grande question, c'est est-ce que ce retour des agences de notation importe ou pas? Je pense que ça nous met quand même sur la piste de questions fondamentales, structurelles, hein, qu'on ne sait pas forcément résoudre. Si, l'inflation, Mm-hmm. Ça conduit quand même à ça. Des interventions massives des banques centrales, une japonisation. Voilà, on continue en fait, en dépit de tout ce qu'on a dit, où on n'a pas vraiment de réponse en réalité. Et voilà. Donc il y a beaucoup d'incertitudes autour de ce sujet-là. Et je pense que ça participe quand même aussi de l'instabilité des marchés, hein, des marchés de taux longs, et de l'inconfort, disons-le, des économistes par rapport à ces perspectives.
Marc, vous, votre sentiment face à ces deux événements
Moi, je distinguerais un peu les deux événements quand même. Le premier, c'est le débat politicien aux États-Unis sur la remontée du plafond de la dette américaine. Ça, c'est un sketch qu'on nous fait à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le sénateur républicain du Texas veut un pont dans son État. Le sénateur démocrate de l'Alabama veut une école dans son district. Donc il y a beaucoup de clientélisme, d'électoralisme derrière tout ce discours. D'accord. C'est vraiment une discussion de marchand de tapis. Mais nous, sur les marchés, le sentiment qu'on a, c'est que cette discussion, à 23h59, la veille du jour fatidique, on va trouver un accord.
Et au pire, on ferme deux, trois parcs nationaux.
Et que le truc, c'est qu'aucun des deux grands partis américains ne voudra prendre la responsabilité auprès de ses électeurs de mettre l'État, les États-Unis d'Amérique en faillite. Donc, globalement, si vous voulez, cet événement qui stresse un peu les marchés à chaque fois...
Oui, je suis d'accord, mais n'empêche que... Après, c'est un peu stressé, on n'en avait plus rien à faire.
Il n'y avait plus rien à faire parce que de toute façon, ce qu'on voit, c'est que les taux ont quand même pas mal monté aux États-Unis. Hein. Rappelons qu'ils ont pris quand même 2% dans l'année 2022. Le 10 ans américain, il est passé en gros de 1,60 au plus bas à. Il était monté même jusqu'à 4,10, etc. Voilà. Donc, le mouvement de tension sur les taux 10 ans, il est un peu fait, je dirais. Je pense que personne ne pense non plus que les taux américains à 10 ans vont monter à 6-7% dans les années qui viennent. Bon, ça c'est le premier point. Et après, sur le deuxième point que vous aviez soulevé, qui est la question de la notation de la France, heureusement qu'il y a eu quand même un peu d'action du gouvernement Macron sur ce sujet-là. C'est pas pour soutenir quoi que ce soit, je vais pas prendre part au débat politique, mais c'est juste pour dire... C'est quand même pas mal que la France envoie aux agents de notation le signal qu'elle n'est pas totalement impossible à réformer. Parce que ce qui est compliqué pour la France, c'est que la fiscalité y est déjà très élevée. Donc on ne peut pas sortir de l'endettement de l'État français en augmentant de manière très importante encore la fiscalité. Aux États-Unis, il y a encore de la réserve pour imposer plus. En France, il y en a peu. Donc la note de la France, c'est quelque chose qui est quand même sensible. Moi, je pense que Fitch a tiré le premier. Après, il faut voir aussi que Fitch est la plus petite des trois agences de notation. Et qu'en étant la plus proactive, peut-être qu'elle se fait un peu aussi valoir.
On a donc des événements qui sont évités, etc. etc. Malgré tout, aujourd'hui, est-ce qu'il y a pour vous des risques qui perdurent ?
Je rejoins complètement l'analyse de Véronique, qui était notre chef économiste quand j'étais à la Générale. On ne peut pas... m'en dissocier. Je pense que, si vous voulez, ces risques que décrit Véronique existent, pèsent sur le marché. Après, pour répondre un peu à la synthèse finale qu'elle a faite, moi je pense qu'on va vers la japonisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on va vers une situation où la dette cumulée de l'État français n'est pas prêt de revenir à 60, malgré le traité de Maastricht. Et puis, effectivement, tout ça risque de déraper et que de plus en plus, ce sont les banquiers centraux qui vont l'apporter, puisqu'ils ont devant eux la transition énergétique, des États où politiquement, c'est quand même tendu. On peut pas aller aujourd'hui dans les banlieues expliquer qu'on coupe toutes les aides, c'est la révolution. Donc si vous voulez, je pense que malheureusement, cette tendance d'accroissement de la dette des États... est encore devant nous, qu'elle va continuer à peser sur le potentiel de croissance et sur la croissance de nos pays développés, mais que c'est le prix de la paix sociale.
Il y a, et vous l'avez rappelé, des questions autour des banques centrales. Et on voit certaines déclarations récentes, aux États-Unis notamment, qu'on dit si on ne fait pas 25 la fois présente, il faudra faire 50 la suivante. Enfin, on voit que le débat n'est pas complètement plié, etc. En Europe, on sait aussi qu'il nous reste des hausses à venir, probablement deux, dont l'épaisseur sera à déterminer. Mais on sent que, on arrive vers la fin, mais qu'il reste quelques crans. Et du coup, il y a sur ce plateau y compris quelques acteurs qui commencent à dire mais Et si en fait on faisait une erreur? Parce que là, on a déjà une belle courbe, mais voilà, si on va plus haut, est-ce que là on a peut-être limite, on a peut-être pas fait l'erreur encore, mais peut-être qu'un, deux de plus, enfin voilà. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez en tête de vous dire, on pourrait avoir aussi le scénario catastrophe, quoi. Enfin,
c'est
l'erreur de politique monétaire.
Incontestablement. Alors, il y a deux points potentiels d'erreur. Le consensus a raisonné jusqu'à présent en disant, la Fed va donner là. Il faut attendre que la Fed marque une pause pour envisager que la BCE, avec un ou deux trimestres selon les cas, suive.
Comme toujours.
Aujourd'hui, alors oublions la Fed un instant, ce qui est en train de se passer, ce qu'on voit en Europe, est en train de nous dire, il est temps que la BCE marque une pause. Ça ne veut pas dire revienne en arrière, ça veut dire se donner le temps de mieux jauger, donner le temps à l'économie d'absorber, d'être capable d'absorber ce resserrement monétaire dont on voit que les effets aujourd'hui commencent à être délétères et inquiétants. Donc on risque effectivement d'en faire trop en zone euro. Je suis pas en train de vous dire que à leur niveau présent, les taux directeurs ont touché leur point d'équilibre. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas et nous avons des tas de raisons qui expliquent ce doute, hein, qui sont liées à l'existence de l'épargne Covid, à ce qui se passe sur l'immobilier, à l'absence de croissance dans l'industrie, à cette parenthèse qu'on a eue de rattrapage dans les services qui nous a laissé penser que tout allait bien, mais en réalité qui est en train de s'essouffler méchamment. On est au bord de la récession. On est peut-être d'ailleurs déjà en récession. Donc oui, il faudrait une pause. Alors ça bouleverse complètement. Moi, je parlais avec quelqu'un, me dit même pas ça, c'est même pas chiffrable pour nos traders ou pour le marché. À côté de ça, il y a la Fed. Et on n'a pas les mêmes comportements. L'économie américaine n'est pas l'économie européenne. L'influence des liquidités sur le fonctionnement économique est complètement différente. On voit avec l'immobilier. L'immobilier a une force à la fois d'ajustement baissier qui peut être phénoménalement rétrécie. Ici, par rapport à la France, par exemple, mais également de rebond parce que l'acteur américain, le ménage y compris, hein, est beaucoup plus réactif à toute la variation des taux d'intérêt, que le marché de la dette des entreprises est beaucoup plus important qu'en Europe, ce qui veut dire que ce marché-là est encore très actif et finalement contrarie l'efficacité des hausses de taux directeurs. On n'est pas très loin du point critique aux États-Unis néanmoins, hein. Mais ça résiste mieux et je pense qu'il faut se sortir de ce carcan qui consiste à dire attendons la Fed avant de faire. Non, il faut sans doute se démarquer et la BCE est dans une position de risque aujourd'hui. On voit bien que les communications dissonnent, hein, qu'il y a, y compris je pense de la part de Madame Lagarde qui veut préserver quand même une image par rapport au plus faucon de la BCE. Des fois un discours langue de bois qu'on voit bien qu'il n'est pas complètement, il reflète pas complètement peut-être son opinion, peut-être je dis. Donc et puis, aux États-Unis, malgré tout, il y a ce vrai risque de lâcher trop tôt, hein, d'avoir, par exemple, une communication un peu trop dovish qui fasse rebaisser les taux longs et de se retrouver avec une économie qui reparte, avec des, notamment les parts Covid qui semblent à nouveau être très actives sur la demande. Donc, oui, il y a des. Mais je dirais un petit peu comme tout le temps, hein, ces dernières phases de hausse, ou de baisse des taux d'ailleurs, hein, sont toujours les plus critiques, les plus challenging. On a quand même envie de dire, et tant à la BCE qu'on lève le pied et peut-être aux États-Unis qu'on fasse une pause, au moins un trimestre, pour voir ce qui se passe.
C'est un scénario que vous avez dans un coin. Alors, de la tête quand même.
Aujourd'hui,
ou pas,
Marc? Cédric, vous allez me trouver extrêmement ennuyeux comme débatteur parce que je suis d'accord à peu près sur tout ce qu'a dit.
Vous avez le droit, hein.
Véronique. Je suis pourtant d'un naturel contrariant d'ordinaire, mais là, j'adhère tout à fait à cette analyse, c'est-à-dire que les banquiers centraux ont mis un temps infini à se réveiller sur le sujet de l'inflation. Souvenons-nous que il y a encore 14 mois, Madame Lagarde nous expliquait qu'elle n'allait pas remonter ses taux, qu'elle n'allait rien faire, que tout allait bien, que l'inflation allait se calmer. Bon, donc elle a attendu quand même avec des taux à moins 0,50 jusqu'au mois de juillet ou jusqu'à l'été, voilà, pour commencer à remonter ses taux. Donc elle a commencé très 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 tard, au moment où justement on avait le pic d'inflation. Et alors maintenant que l'inflation en zone euro rebaisse, et on l'a vu avec le dernier chiffre, là elle nous dit qu'il faut aller plus loin. Non madame, il fallait certainement commencer plus tôt, il fallait peut-être aller plus haut, plus rapidement, mais maintenant c'est trop tard. Maintenant, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de dire il faut marquer une pause, parce que les effets de taux qui passent de moins 0,50 à 3,75 ou aux États-Unis de 0 à 5,25, on les a pas encore complètement vus. Donc, oui. Attendons déjà de voir quel est l'effet, effectivement, des hausses qui ont été très importantes, très rapides et récentes pour continuer à aller plus loin. Il n'y a aucun besoin de hausse de taux supplémentaires aux États-Unis. De toute façon, passer de 5,25 à 5,50, c'est blanc bonnet et bonnet blanc en termes de résultats. Et ça donne un message qui pour les investisseurs, n'est pas bon. Alors, il y a 80% aujourd'hui des investisseurs qui pensent qu'ils vont faire un dernier quart, là, lors de la prochaine réunion. Moi, j'espère qu'ils ne le feront pas.
Non, je pense qu'ils ne le feront pas.
Voilà.
Vous pensez non plus qu'ils ne le feront pas ?
Non. Non, par contre, le discours, à mon avis, leur position, c'est de ne rien faire, mais de garder un discours ferme. Donc, voilà, on a besoin d'une pause pour voir ce qui se passe, et pour mieux jauger. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on va baisser la prochaine fois, surtout pas. Hein. Et on verra, parce que si vous avez un discours en réalité un peu dovish, ce qui peut se passer, c'est que la partie longue des taux remonte, enfin les taux, la long terme remonte, et c'est peut-être là qu'on aura l'effet le plus visible sur l'activité, la transmission de la politique monétaire sur l'activité. Donc c'est un jeu quand même éminemment complexe, et donc je pense qu'ils ne le feront pas.
Surtout que l'économie ralentit, c'est exactement plus nécessaire.
Juste un petit mot aussi des marchés, parce que ces questions de taux ont bien évidemment réallumé, on va dire, le marché obligataire, et Goldman Sachs nous propose depuis quelques temps ce nouvel acronyme que vous avez peut-être vu passer, TARA, qui remplace Tina. Pour votre culture, sachez qu'il y a une chanteuse qui compile les deux en Californie qui s'appelle Tina Tara.
Ah bah,
Tara étant Zerar Reasonable Alternative. Il y a des alternatives raisonnables. Je vous traduis puisque mon accent est déplorable. Parce que forcément, ces rendements obligataires, ils sont un petit peu plus attractifs. Quelle bien réflexion sûr. Ça vous inspire? Vous vous dites, ça y est, on se débarrasse, nous, des passagers clandestins qui squattaient les marchés actions, là
Oui. Alors, Tina, nous, elle nous a quittés il y a un certain temps déjà. Alors, j'étais content plus ou moins, mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que les clients, particuliers ou pas particuliers d'ailleurs, vont massivement vers les émissions obligataires. Là où on a de la collecte, déjà chez Vega, depuis le début de l'année, c'est beaucoup sur des fonds à échéance obligataire. Donc là, les clients veulent de ça parce que ça rapporte du 4,5, 4,80, 5%. Donc ils sont ravis, ils viennent là-dessus. Et puis plus largement dans le groupe auquel j'appartiens, le groupe BPCE, on voit que ce que les conseillers ont de la facilité à vendre cette année, c'est les emprunts de la maison. Donc ils sortent à 4, à 4,10 et ça intéresse énormément les clients, ils vendent ça comme des petits pains. Donc on n'est plus du tout dans Tina, on est clairement dans le Tara, comme dit Goldman Sachs. Alors bon, les acronymes de Goldman Sachs, bon. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, le placement taux est aujourd'hui une vraie alternative pour les clients privés, en particulier pour les plus frileux, qui n'ont toujours pas compris que ça n'est pas en achetant du livret A ou de la dette qui feront fortune, mais bien en investissant dans l'économie, sur les actions, sur les valeurs, sur la gestion. Mais ça, c'est une messe.
Comment vous voyez les choses, vous, sur ce marché obligataire qui retrouve du lustre, quand même?
Oui, bien sûr, mais c'est logique. Là, pour le coup, on a
des comportements
rationnels. Pourquoi? Parce que si on sort du long terme, on a un rendement garantie qui se compare à une moyenne des rendements actions, voilà, enfin qui se compare honorablement à la moyenne des rendements actions. Et il y a un besoin d'épargner et de sécuriser son épargne quand même. On a des économies qui vieillissent et des épargnants qui veulent soigner leur patrimoine, enfin veiller à protéger leur patrimoine. Donc tout ceci est très normal. Je trouve qu'il s'agit plutôt d'une normalisation, d'ailleurs, qui a été assez souhaitable par rapport aux exagérations, notamment Tina, qu'on a vu ces dernières années. Donc, oui, c'est plutôt bien. Ça peut être également finalement stabilisant. Ça peut permettre à des valorisations un petit peu extrêmes, qui quand même sont assez encore monnaie courante, de se normaliser. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bienvenu. C'est tout à fait logique.
Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges très riches. Véronique Riche-Flores et RF Research et Marc Riez et Vega IM. Dans un instant, on file sur les marchés grâce à Jean-Louis Cussac et puis on retrouvera le grand débat du patrimoine. A tout de suite.
BFM Business. l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
On est ensemble jusqu'à midi. Dans un instant, les grands débats du patrimoine. Mais d'abord, un détour par le marché où Jean-Louis Cussac suit la séance pour nous depuis Perceval Finance Conseil. Jean-Louis, que dire de la tonalité de cette bourse qui a certes repris quelques couleurs, mais qui reste quand même pas si haute?
Bah, le marché reste pas mal. Il nous montre une chose, c'est qu'il veut pas baisser, ça c'est sûr. Donc la tendance long terme, bon, bah, si elle est neutralisée, elle garde un biais haussier quand même. On a peu de volume, 450 millions, c'est un chiffre déjà faible à 10h30. Donc imaginez, Cédric, à 11h30, c'est vraiment minable. On a donc des ramassages quand même sur le secteur automobile, sur les bancaires. Non, c'est pas si mal que ça. À chaque fois, si vous voulez, on a des mouvements en divergence. Un jour ça baisse, le lendemain ça remonte, parfois même d'une heure sur l'autre. Donc on continue, si vous voulez, pour l'instant, dans ce marché très très hésitant. On retrouve d'ailleurs la même chose sur l'euro-dollar qui remonte en ce moment. La résistance, ça serait 1,0740. Mais ça fait des jours et des jours que on a aussi ces mouvements en divergence d'un jour sur l'autre. Donc il y a toujours une hyper hésitation, mais un sentiment quand même qui reste positif. Et sur le plan technique, on va dire neutre, mais biais haussier.
Merci beaucoup Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, le marché parisien, plus 0,27, 7221 points.
BFM Business, le grand débat du patrimoine.
Vous en avez l'habitude, chaque mois, on se retrouve autour de la table pour un grand débat patrimonial avec la complicité de Jean-François Filiatre pour Marché Gagnant. Et aujourd'hui, autour de la table, Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants de l'Autorité des marchés financiers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Delphine Damarzitz, directrice générale d'Euronext Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à l'invitation. Et Patrick Renard pour le service actionnaire d'Air Liquide.
Bonjour.
Merci à vous aussi d'être là ce matin. Notre thème, ce mois-ci, concerne les actions. Sont-elles un placement ringard? C'est l'interrogation du jour. Et Jean-François, je vous vois hilar, parce que vous, comme moi d'ailleurs, on est tous les deux de grands défenseurs du placement action, au terme de la vie des entreprises. Et vous? Vous nous provoquez ce matin en nous traitant de ringard.
Ouais, mais je vais vous dire pourquoi, parce que c'est une histoire avec Choupinette. Vous savez qu'on a notre portefeuille boursier pédagogique, et puis on a un petit souci, c'est que sur le secteur des biens de consommation, on a une position sur Christian Dior, une action qui vaut 700 euros, et elle commence à peser de manière un peu trop importante, donc on aimerait bien alléger, mais à 700 euros sur un portefeuille grand public à 10 000 euros, ben c'est pas facile. Et je me suis dit, si j'ai envie d'acheter des fonds, ben je peux investir au franc à l'euro près, si je veux acheter des SCPI, pareil, idem en épargne salariale, je ne peux pas le faire avec les actions. Je me suis donc dit, pour Choupinette, c'est un placement ringard, autant donc en parler avec la place.
Bon, eh ben, on va en parler justement, et tiens, on va commencer avec le représentant des actions, entre guillemets, une boîte Air Liquide, Patrick Renard, c'est ringard une action?
À mon sens, c'est pas ringard, c'est doublement intelligent. D'abord parce que c'est certainement la meilleure ou une des meilleures façons de valoriser ses économies. Ça, les études de l'AMF, et Claire ne me contredira pas, le prouvent. À moyen et long terme, c'est le placement le plus rentable, bien plus que laisser dormir ses économies sur un compte courant ou sur un livret bancaire. Et puis, c'est doublement intelligent parce qu'étant actionnaire d'une société, on choisit sa société, on s'intéresse à la société, on a un droit de vote qui peut influencer sur le cours de la société, et notamment aujourd'hui où les jeunes sont particulièrement demandeurs de sens, ce sont les entreprises qui peuvent apporter du sens. C'est l'économie réelle, c'est aussi l'économie qui crée des emplois. Ce sont des entreprises qui travaillent, si je prends le cas d'Air Liquide, énormément sur la transition énergétique. Donc tout cela fait que ce n'est absolument pas ringard à mon sens.
Bon, Patrick, de toute façon, ce n'est pas très étonnant qu'il soit là, parce qu'Air Liquide, c'est quasiment l'élève parfait dans les relations actionnaires, avec le nominatif, etc. Quand on pilote la Bourse de Paris, parce que finalement c'est ça, Euronext Paris, c'est un peu la patronne du Palais Brongniart, on est aussi en prise avec les brokers, avec tous les professionnels de marché. Qu'est-ce qu'ils vous disent à vous?
Eh ben, ils me disent, effectivement, nos clients qui sont les intermédiaires qui passent les ordres, ils nous disent que les investisseurs particuliers ont changé. Alors, on sait qu'ils sont arrivés, ils sont revenus, une nouvelle génération avec la la volatilité de la crise Covid puis ukrainienne, mais ils ont un comportement, nous disent nos clients, sophistiqué. On disait les particuliers rentrent trop tard, sortent en panique ou ne vendent pas assez tôt. Aujourd'hui, on nous dit en fait ils se comportent habilement. Ils rentrent, ils buy the dip comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'ils rentrent à un moment stratégique et ils restent sereins à un certain moment de baisse ou de volatilité forte. Donc ils sont c'est une génération plus jeune et qui sait gérer la volatilité. Alors, ce n'est pas un conseil. Ça dépend des profils.
Non, mais donc ils trouvent pas ça ringard.
Sinon, Claire, hein. Ils trouvent pas ça ringard. Non, ils sont stratégiques. Et l'action, c'est le placement stratégique, l'investissement en direct. On reviendra sur ces questions de comment on fait sur les fractions, etc. Mais et puis il y a d'autres profils pour lesquels il est plus adapté de choisir d'autres types d'instruments qui sont investis en action, mais pas forcément en direct ou pas forcément directement en action.
Claire Castanet, du côté de l'AMF, le gendarme, comme on dit, mais il n'y a pas que le képi. Enfin, je dirais, il n'y a pas que la sanction. Il y a aussi la protection, la surveillance, l'accompagnement, la pédagogie et on l'illustre régulièrement, notamment avec le médiateur de l'AMF qui nous rejoint régulièrement. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez des chiffres qui vous permettent de nous guider un peu dans cette histoire-là, de oui. Ringardise ou pas?
Oui, si on prend les années 2020, 2021, 2022, c'est plus de 820 000 nouveaux investisseurs. C'est pas rien.
C'est pas mal.
C'est pas rien. Avec un rajeunissement de façon générale, hein, puisqu'on est à moins 8 ans par rapport à ce qui préexistait avant en âge moyen. Et sur les néo-brokers, on est à 30% de personnes qui ont moins de 30 ans. Donc, ringard, non, ça se rajeunit. Avec, bien sûr, l'élément déclencheur qui a été la crise sanitaire, puis la crise en Ukraine. Donc, des moments qui ont paru pertinents, sans doute, à ces nouveaux investisseurs pour pouvoir investir en bourse, avec toujours l'attention, bien sûr, que l'on doit rappeler de la diversification, du fait qu'il faut apprendre à se servir de ces instruments-là et, bien sûr, connaître les sortes de bourses, etc. Mais, visiblement, il y a un investissement de la part de ces plus jeunes investisseurs en cette matière.
Juste clair par rapport à ça, moment du Covid, on comprend. Est-ce qu'il y a aussi une différence en termes d'offres de la part des intermédiaires à destination de la clientèle?
Alors, on a vu les plus jeunes notamment, mais pas seulement, attirés par de nouvelles plateformes, plus ergonomiques, plus adaptées avec des parcours clients beaucoup plus fluides. Et puis, des offres également qui mettaient en avant du zéro commission, par exemple. Là-dessus, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Bien évidemment, rien n'est gratuit.
Je le disais, Patrick Renard, Air Liquide, c'est un peu le bon élève. Vous connaissez particulièrement vos actionnaires avec ce nominatif pur, avec un encadrement quand même. Ça résonne chez vous aussi?
Tout à fait.
Reste l'action du bon père de famille qui l'a acheté il y a 40 ans et qui ne l'a toujours pas vendu et qui a l'âge de ses actions?
Non, alors je confirme ce que disait Claire. On a vu l'arrivée de nouveaux investisseurs. En fait, on est passé de 420 000 actionnaires individuels en 2018 à près de 750 000 fin 2022, ce qui est colossal. On n'avait jamais vu une croissance pareille. C'est un public plus jeune, effectivement, nettement plus jeune. Et c'est un public plus féminin aussi. Les femmes sont peut-être plus avisées. En tout cas, elles ont investi massivement sur l'action Air Liquide.
Bon, bah donc voilà un petit peu le cadre. Donc c'est a priori pas complètement ringard, hein, Jean-François. Donc on a raison de continuer. On doit parler un peu maintenant du marché. Comment est-ce que vous le percevez, vous?
Alors moi, je vais vous faire une confidence, Cédric. J'ai envie de vous appeler Papy Mougeot. Parce que là...
Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse.
Non, mais la référence... Non, mais pourquoi je dis ça? Vous avez fait référence tout à l'heure au Palais Brongniart. Donc on va se rappeler Jean-Pierre Gaillard. On va se rappeler votre grande époque. C'est votre grande Jean-Pierre. Époque où vous donniez des cours sur l'antenne de France Info. Et à cette époque-là, on était sur un marché boursier qui était centralisé. Donc, effectivement, ça a été au Palais Brongniart. Et puis après, on est parti dans les tours à la Défense. Aujourd'hui, le marché, c'est plus ça du tout. Aujourd'hui, il y a eu des directives européennes. Ça s'appelle MIF 1, MIF 2, etc. Enfin bon, tout ça, c'est de la technique. Mais en pratique, quand vous passez un ordre aujourd'hui, l'ordre, il peut atterrir Chez Euronext, mais il peut aussi atterrir sur des plateformes alternatives. Et puis, on a vu notamment dans le développement des nouveaux acteurs dont nous parlait Claire il y a de cela quelques instants, de nouvelles pratiques qui nous viennent des États-Unis, qui consistent à dire que votre ordre, on va le vendre à quelqu'un d'autre qui, lui, va le faire un peu de marge dessus et va lui-même le retraiter derrière. Donc, en fait, on est dans un monde qui est beaucoup plus compliqué. Et puisqu'on a la chance d'avoir Delphine avec nous aujourd'hui, moi, je suis allé aux entretiens de l'AMF cette année et j'ai entendu Delphine nous dire « Les ordres de particuliers, c'est de l'or ». Or, moi, ce que je constate sur le marché, c'est que grosso modo, il y a eu énormément d'acteurs étrangers qui ont pris énormément de parts de marché ces derniers temps et qu'il y a un débat tarifaire. Parce que ces acteurs, ils sont arrivés en disant « zéro commission ». Donc, moi, ma question que j'ai envie de poser à Delphine, c'est si c'est de l'or, est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'Euronext, par rapport à ses membres, n'a pas intérêt de se bouger un peu pour que toute l'activité se fasse pas, non pas auprès des acteurs étrangers avec des pratiques anglo-saxonnes, mais plutôt dans des pratiques hexagonales?
Alors, je vous rassure, bien sûr, aujourd'hui, on est en concurrence comme lieu d'exécution. On a toujours le monopole de ce qui se cote chez nous en termes de listing. Si c'est Euronext qui est choisi, Euronext Paris, sur l'exécution, on est en concurrence. Euronext est toujours le marché le plus liquide, le marché de référence, là où se font les prix, avec une part de marché très largement majoritaire, évidemment. Et pourquoi je disais, c'est important, et je le redis, les ordres des particuliers, c'est de l'or. Parce que tout le monde va être en face, parce que c'est des flux qui sont très, très sains, qui arrivent sans biais, avec des intentions d'investissement qui sont liées à des opinions. Et donc, c'est pas des gens qui vont chercher des failles de marché. Voilà. Donc, tout le monde veut être en face de ces flux. Ça veut dire que, normalement, il faut que les plateformes d'exécution rendent de la valeur, traitent mieux ces ordres retail. Et c'est ce que fait Euronext, puisqu'on a un service qui s'appelle Best of Book, qui est un service d'amélioration du prix. Lorsque nos clients, les intermédiaires de marché, y vont, ils obtiennent une amélioration de prix qui est de 2,60 euros par ordre en moyenne. Parce que qu'est-ce qui se passe avec le zéro commission promis par certains brokers, alors qu'ils ont forcément des frais, les frais d'exécution, mais plein de frais de distribution, de construction de plateforme, etc. C'est que, en fait, on se refait sur le prix. Voilà, il n'y a pas de magie. Donc, c'est attirant en marketing, parce qu'on sait bien qu'on est tous sensibles à des petites illusions monétaires, pour employer un terme technique.
C'est, on rappelle aussi que généralement, quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit.
Voilà. Et donc, Best of Book va vous assurer le meilleur prix, 99% des cas, meilleur que la moyenne, la seule plateforme transparente qui est toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Néanmoins, on est stimulé par ces approches marketing. Et on a hier annoncé à nos intermédiaires une nouvelle option tarifaire qui permettra que les ordres au marché puissent être gratuits pour ces intermédiaires, et donc ça leur permettra de faire des offres très favorables. Pourquoi ? Parce que les plateformes alternatives qui sont en pif-off, je pense qu'on va revenir à cette explication, c'est-à-dire qu'elles vendent leur flux, on peut se demander si du coup elles ont le meilleur prix, elles n'ont pas de liquidité sur les ordres limites. Donc les ordres limites, ils vont être sur Euronext, parce que c'est Euronext qui a la liquidité. Et donc elles se concentrent sur les ordres au marché. Et donc, nous, on a amélioré, repensé notre grille tarifaire de manière à ce que les ordres au marché puissent également venir sur Euronext, apportés par tous nos intermédiaires.
Pif-off, puisque on a aussi quelques béotiens qui nous écoutent, c'est Payment for Order Flow.
Ouais.
Hein, donc, c'est un acronyme, entre guillemets. Comment est-ce que vous le percevez, vous, d'ailleurs, à l'AMF, ce débat sur...
Vous parliez de bon sens tout à l'heure. Le bon sens, c'est que rien n'est gratuit, bien évidemment, lorsqu'il y a une offre, lorsqu'il y a de la distribution, lorsqu'il y a des plateformes d'exécution. Donc, il ne faut pas que ce soit un mirage marketing. Et il faut bien comprendre, il peut y avoir des prix différenciés pour différentes raisons, de la part de différentes plateformes. Il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, il faut de la transparence. Et au-delà de la transparence, elle sert à quoi, cette transparence ? À informer le client, mais également à vérifier s'il y a des conflits d'intérêts. Et ça, c'est essentiel, puisque vous devez travailler pour le meilleur intérêt de votre client, et non pas pour vos intérêts à vous. Oui. Et la clé est là.
Oui. Jean-François, une réaction ?
J'aime les ordres à cours limités, et c'est ce qu'on explique à Choupinette, le fameux ordre bonne affaire.
Patrick Renard, combien ça coûte de passer un ordre chez Air Liquide ?
Alors, quand on est au nominatif pur, ça coûte 0,1% hors taxe. Hein, donc, c'est le taux, un des taux, voire le taux le plus bas du marché. Et c'est sans minimum. Et ça, c'est quelque chose, on dit toujours à nos actionnaires, méfiez-vous. Il faut aussi regarder la question du minimum. Les actionnaires individuels passent des ordres qui ne sont pas des ordres forcément très, très élevés. Et le minimum vient souvent, en fait, énormément gonfler les taux artificiellement, je dirais, entre guillemets, proposés avec un pourcentage attractif. Alors, indépendamment de ça, lorsqu'on est au nominatif pur, tout ce qui est droit de garde et frais de gestion est aussi égal à zéro.
Oui.
Donc, le coût d'un compte-titre, en fait, c'est uniquement au moment où on passe un ordre d'achat ou de vente.
On rappelle, hein, on l'a évoqué il y a peu de temps, ce nominatif sur l'antenne. On rappelle que son seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas PE-able et que quand on est au nominatif pur, on est sous la fiscalité du compte-titre et non pas du PEA, sinon c'est le nominatif administré. Donc voilà pour tout ça. Parlons un petit peu des influenceurs aussi, pour ne pas être ringard, parce que sinon Jean-François va nous coller un débat sur les influenceurs, et là je ne sais pas où on va partir. Il y en a qui tentent un peu de vendre du rêve, et c'est vrai qu'on a parfois de belles boîtes à Paris, mais de moins en moins de sociétés étrangères. Comment est-ce que vous voyez ces évolutions de cotes, etc. Delphine.
Alors, on a des sociétés étrangères à Paris, bien sûr, mais c'est vrai que les places de listing...
On évoquait Jean-Pierre Gaillard tout à l'heure. Ouais. Je me souviens qu'à la fin de chaque liste, il était aux étrangères, etc. Et ça faisait... on en parlait beaucoup. Aujourd'hui, on en parle moins quand même.
En fait, les particuliers doivent être diversifiés.
Ouais.
Donc moi, mon objectif, c'est d'avoir un maximum d'entreprises cotées sur Euronext Paris, mais il faut reconnaître que pour l'investissement, il faut être diversifié, comme un petit biais domestique, parce que c'est important, l'économie réelle, mais pas trop. Et donc, c'est une partie de l'appel, entre guillemets, des aux brokers que d'offrir de manière simplifiée techniquement, on va dire, peut-être pas financièrement, des valeurs étrangères cotées, listées ailleurs, américaines, le reste de l'Europe. Vous savez, Euronext a fait l'acquisition en 2021 de Borsa Italiana, qui est une bourse qui a une forte participation des particuliers par tradition italienne très, très positive. Et ils ont un marché qui s'appelle GEM, Global Equity Market, sur lesquels sont listées 130 valeurs qui ne viennent pas de Borsa, qui sont admis to trading dans le jargon, et sur lesquels du coup les brokers peuvent facilement se brancher, et c'est beaucoup simplifié par rapport à je ne fais pas les détails, mais une tuyauterie assez complexe pour tout le monde lorsqu'il faut proposer à sa clientèle des valeurs étrangères, raison pour laquelle c'est souvent des commissions très élevées pour un peu décourager. Voilà. Et donc nous on trouve ça. On a basculé nos marchés sur notre plateforme commune Euronext, nos 7 marchés maintenant, et on va très bientôt, d'ici la fin de l'année, le booster. On passera de 130 valeurs à plus de 600, avec des marchés, des durées de transactions étendues, de manière à pouvoir traiter les américaines avec plus de durée que si ça s'arrête à 5h de l'après-midi, ce qui fait que c'est pas très ancien, il se passe encore des choses à New York. Et on va ainsi pouvoir simplifier pour nos membres qui sont les intermédiaires la capacité à proposer ces titres en euros. Et ça, je pense que c'est important pour les particuliers, c'est qu'ils n'auront pas cette complexité supplémentaire qui peut engendrer des frais supplémentaires d'être dans une monnaie étrangère.
Des influenceurs, vous avez imaginé en recruter, vous, pour vendre l'action Air Liquide ?
Bah écoutez, on y réfléchit. Alors, ça dit, il faut différencier. Il y a deux types d'influenceurs. Vous avez l'influenceur qui influence sur une quantité de choses. Ça peut être sur des produits de consommation, sur de la mode, du luxe, etc. Qui connaît rien à la finance. Donc, évidemment, c'est pas à ces gens-là qu'on s'intéresse. En revanche, vous avez des gens qui sont des influenceurs qui sont beaucoup plus spécialisés dans le domaine de la finance, qui sont pertinents. Et nous, on demande qu'il y ait une évolution de la réglementation, peut-être un stamp AMF, quelque chose qui permettrait vraiment de valider la crédibilité de ces influenceurs. Mais il est clair que c'est probablement un moyen intéressant, justement, de démocratiser l'action et de faire de la pédagogie.
Qu'est-ce qu'on se dit chez le gendarme? Là, pour le coup, je suis désolé, je vous remets le képi.
Non, mais l'influence, c'est de la publicité, ouais. Ni plus ni moins. La publicité, bien évidemment, il y a un régulateur pour ça, hein, c'est la répression des fraudes, mais on s'y intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est un premier indice de commercialisation pour nous. Et ce premier indice de commercialisation, cette promotion, doit respecter les règles de la publicité. D'une part, si on est payé, il faut dire qu'on est payé. Il faut avoir une communication qui soit équilibrée entre les avantages et les inconvénients. Et puis, comme le disait Patrick, il y a des gens qui ont investi en matière de connaissances et d'autres qui se sont improvisés. On a vu notamment un certain nombre d'influenceurs logés ailleurs, notamment à Dubaï, qui ont eu des dérives tout à fait problématiques. Oui. Donc, il faut savoir à qui on a affaire et il faut éduquer aussi l'ensemble de nos internautes pour qu'ils se posent la question, est-ce que la personne qui est en train de me parler de finances, alors qu'on sait bien le poids que ça a dans la vie des ménages, des familles, des jeunes, que de préparer son avenir financier, est-ce que cette personne-là, elle a des compétences pour le faire? Est-ce qu'elle est rémunérée pour le faire? C'est un message publicitaire ou c'est un conseil de bon ami? Sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours très clair et nous nous réjouissons qu'il y ait une loi qui arrive, elle a été votée, qui va permettre, qui est une loi avant tout pédagogique, mais de cadrer les choses, de donner des points de repère là-dessus. Et nous travaillons avec l'autorité d'autorégulation de la publicité pour un certificat sur l'influence responsable adaptée au secteur financier.
Bon, donc on s'achète pas tout de suite un appart à Dubaï avec Jean-François. On va rester un peu ringard. Bon, il nous reste 5 minutes. On a plusieurs sujets, mais je voudrais vraiment qu'on dise un mot de ces morceaux d'action qui tournent un peu entre nous depuis le début où vous l'avez initié, Jean-François. C'est quoi? Vous les découpez, Patrick?
On a le débat. On peut poser la question. On peut poser. Ce qui est intéressant
clair,
là,
c'est de se dire
on a le marché, le régulateur, un émetteur, voilà. Et on va dire un représentant des épargnants. Donc on a à peu près la.
Pourquoi
place.
Je pourrais pas acheter un huitième de la
question,
que
la question qu'on peut poser à un émetteur, est-ce qu'un émetteur Air Liquide trouverait ça bien que des investisseurs puissent acheter, non pas une action, mais 0,5% d'action, en particulier dans la démarche qui est celle qu'on a engagée, de vouloir faire en sorte que les actions deviennent un placement populaire.
Oui, alors, tout à fait, parce que
est-ce qu'on peut découper Air Liquide?
Très clairement, beaucoup de personnes nous disent 160 euros, qui est à peu près le cours actuel de l'action Air Liquide, c'est trop élevé, il faut que vous fassiez des splits. Okay, donc on va diviser par 2, par 5, peu importe. Mais ce n'est pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est l'investissement programmé. En fait, on se rend compte que les jeunes aujourd'hui sont très demandeurs de produits d'investissement programmé, c'est-à-dire de pouvoir dire à leur intermédiaire financier, oui, vous m'achetez tout.
Comme ils payent leur smartphone, vous payez de la bourse.
J'économise 200 euros tous les mois en actions Air Liquide. Donc forcément, ça, ce sont des fractions Air Liquide. Et c'est intéressant, non seulement, bien entendu, parce que les jeunes s'y intéressent, mais c'est intéressant parce que c'est une manière connue de réduire le risque d'investissement en bourse, le fait d'investir régulièrement dans la durée. Voilà. Hein, donc moi, je suis vraiment demandeur de la possibilité. Ça se fait dans d'autres pays. C'est une question aussi de cadre réglementaire. Donc là, Claire confirmera qu'elle travaille aussi, elle s'intéresse aussi au sujet. On a des discussions sur ce point. Et donc, on peut espérer que cela soit bientôt possible. Ça pose quand même des questions réglementaires importantes qu'il faut résoudre.
Alors, le régulateur, qu'est-ce qu'il en dit de découper?
Si je me mets à la place de l'investisseur, la question c'est qu'est-ce que j'achète? J'achète vraiment une fraction d'action ou je suis en train d'acheter un produit dérivé qui ne dit pas son nom? Et ça, c'est tout à fait essentiel. Je suis actionnaire, avec tous les droits de l'actionnaire, le dividende, etc. Ou je suis créancier. Même la garantie sur les titres ne s'applique pas de la même façon. Donc, comprenez ce dans quoi vous investissez, diversifiez bien évidemment. Et puis, ce sont des choses qui, je pense, répondent à une aspiration, effectivement, d'être plus lissé dans le temps, qui est un conseil pédagogique que l'on donne régulièrement.
Et à la Bourse de Paris?
Alors, non, c'est vrai qu'il y a cette aspiration, on la comprend, et le conseil d'investissement régulier, il est excellent, et il est complémentaire de ce que je disais au début, il y a des investisseurs, des nouveaux traders qui viennent entrer de manière stratégique. Là, on s'adresse à une autre logique, qui est celle de l'accumulation, plus de l'investissement que, entre guillemets, du trading. Donc cette aspiration, on la comprend, effectivement, il faut comprendre ce qu'il y a. Il y a plusieurs solutions. Il y aurait une solution qui consisterait à transformer l'ensemble de la tuyauterie et raisonner par fraction plutôt que par décimalisation plutôt que par action en tant que telle, avec une transmission à tous les étages des questions de gouvernance et de propriété. C'est complexe, ça nécessite que, parce que on est tous les quatre là, mais il manque les intermédiaires. Je les rajoute dans cette équation. Après, il y a des produits, effectivement. Alors les Allemands, ils ont un système d'indivision. qui vient s'intercaler. Sinon, c'est effectivement des produits qui répliquent. J'aurais cité donc les produits, ça peut être parfois des tokens, mais alors là, on ne sait plus très bien ce que c'est, entre guillemets, en termes de régulation financière, en tout cas pas encore. Ça peut être effectivement des dérivés qui s'appellent différemment, ça peut être une fraction indivise dans le système allemand. Une solution aujourd'hui qui est bien connue et qui dit son nom, c'est les ETF, les trackers, qui vous permettent d'être sur un titre.
Oui.
Vous êtes sur un titre tout en étant, entre guillemets, dans une logique de fond.
Voilà. Juste un dernier mot avant la conclusion.
Oui, alors pour nous, les ETF, ce ne sont pas des actions. Donc je rejoins le souci de Claire d'avoir derrière des fondamentaux qui sont l'entreprise. Et l'entreprise, c'est une aventure dont c'est intéressant. Dans le système qu'on appelle de nos voeux pour le fractionnement des actions, en fait, lorsque la somme des fractions, mettons qu'on achète 2/10 chaque mois, vient à 10/10, à ce moment-là, ça devient une vraie action.
D'accord.
Donc, en fait, le fractionnement ne s'applique qu'à un montant inférieur à une action. Donc, on devient très, très vite actionnaire, droit aux dividendes, droit de vote, etc.
Jean-François, on conclut rapidement ?
Très rapidement. Non, les actions ne sont pas un placement en guerre, mais en revanche, il y a une impérieuse nécessité de moderniser plein de choses. La décimalisation, la communication financière, ça peut pas être. On ne peut pas parler à un investisseur particulier en disant que c'est un petit institutionnel en ayant le même type de communication. Le fonctionnement des assemblées générales pour qu'on puisse les faire en digital, en votant avec son téléphone. Bref, il y a plein de choses à faire. Et ça, c'est un travail de tous les gens qui sont autour de la table, plus les intermédiaires, c'est un travail de place. Vous voyez, je m'énerve souvent en me disant qu'on s'occupe trop des problèmes de la place et pas assez des problèmes de choupinette. Mais des fois, les problèmes de choupinette remontent au sujet de place. Il me semble-t-il, lorsque l'on s'interroge sur le financement des entreprises et la souveraineté économique, ce sujet-là est un sujet majeur.
Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Claire Castanet, donc, pour l'Autorité des marchés financiers, Delphine Darmazit pour Euronext et Patrick Renard pour Air Liquide. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, Jean-François ?
On se retrouve la semaine prochaine.
Oui, pour Marché Gagnant, comme chaque jeudi sur l'antenne de BFM Business. Dans un instant, c'est 90 minutes business et Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Il y a du monde sur le plateau, on vous a un tout petit peu piqué de temps.
Oui, effectivement.
Mais on vous retrouve dans un
J'ai
instant.
J'ai vu ça, on va parler de Casino et Terac, la période des négociations exclusives qui prend fin ce soir. On va en parler avec Pauline Tadevin, on accueillera Stéphane Allaire, le président fondateur de Reforest Action qui plante des forêts sur toute la planète. Et puis on parlera du tourisme qui se porte très bien, c'est Didier Arinaud qui sera avec nous à 12h45 dans le débat. Beaucoup d'actualités, programme très chargé encore aujourd'hui, Cédric.
À suivre dans un instant, le marché parisien, lui, est en hausse de 0,22%, 7218 points. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.